Aujourd'hui, je suis avec Olivier Brosseau sur le podcast Le Balado de Scepticisme Scientifique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Olivier Brosseau, c'est un auteur qui a écrit un livre sur le créationnisme avec un co-auteur qui s'appelle donc Cyril Baudouin. Et je l'ai invité pour qu'il vienne nous parler de son ouvrage qui s'appelle donc Enquête sur les créationnismes. Mais avant qu'on parle vraiment du créationnisme, est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Qui es-tu?
Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivier Brosseau, comme tu viens de le dire, et je suis co-auteur de ce livre avec Cyril Baudouin. Je suis biologiste de formation. J'ai fait une thèse, en fait, au Muséum national d'histoire naturelle en systématique et évolution, il y a déjà quelques années. J'ai soutenu en 2005 cette thèse, et après ma thèse, j'ai décidé de me réorienter vers la communication scientifique, journalisme scientifique, diffusion de la culture scientifique. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Cyril, puisqu'on s'est retrouvés tous les deux dans la même formation, un master 2 en journalisme et communication scientifique qui est à Paris 7. Lui-même était en train de se réorienter puisque il est Cyril Baudouin, donc co-auteur de ce livre. Lui est ingénieur physicien et il a travaillé quelques années en instrumentation physique au CNRS avant de décider de partir vers le journalisme scientifique. C'était plutôt ça son objectif. Et on a sympathisé au cours de cette année universitaire. Et on a commencé à travailler sur la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, à cette occasion-là également. Parce que c'est parti d'un projet universitaire. C'était même au départ, c'était même un projet vidéo. Donc on devait mener un projet vidéo. J'avais ce sujet-là en tête depuis un moment. Venais de rencontrer Cyril, j'en ai discuté avec lui et ça m'intéressait aussi beaucoup. Donc on a commencé à travailler dessus dans ce cadre-là. Donc on a rencontré des gens, on a fait des interviews filmées de différentes personnalités, de personnes qui défendent des positions créationnistes en France. Donc ça a pris pas mal d'ampleur. Le projet universitaire en lui-même, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout du film parce que ça a pris trop d'ampleur. Mais par contre, au travers de ce travail, on a rencontré un certain nombre de personnes et des personnes aussi intéressées par ce qu'on faisait. Et c'est là qu'on a commencé à nous proposer tout d'abord d'écrire des articles pour rendre compte de l'enquête qu'on a commencé à mener à cette époque-là. Et en 2007, il y a un éditeur chez Sileps qui nous a proposé d'écrire un livre parce que cet éditeur avait en projet que la maison d'édition propose un livre sur la problématique du créationnisme. Il n'avait pas encore identifié d'auteur et quand il a vu notre travail, il nous l'a proposé et c'est comme ça qu'on a publié un premier petit livre en 2008. Donc, qui est paru chez cet éditeur Sileps, c'était vraiment un petit livre, c'était un format poche, il faisait 120 pages. Donc c'est pas le même type de livre que celui qu'on a publié l'année dernière, qui est un livre beaucoup plus conséquent. L'enquête est beaucoup plus approfondie. Il y a toute une partie qui relève, qui n'existait pas du tout, de nombreuses parties qui n'existaient pas dans le précédent ou qu'on a considérablement développé. Et on a pu faire le deuxième livre parce que le premier livre a eu de bons échos, s'est bien vendu. Sileps n'a pas voulu continuer à publier des livres en histoire et philosophie des sciences, et donc on s'est retrouvé avec un livre qui était épuisé, avec encore des sollicitations et des demandes et des gens qui souhaitaient qu'on connaître notre travail, et donc c'est comme ça qu'on est allé à la rencontre d'autres éditeurs et qu'on a eu l'opportunité de travailler avec Belin, qui était intéressé par notre travail et qui nous a proposé en 2009-2010 de nous consacrer à un autre livre sur le sujet et qui a vu le jour donc en 2013 et qui s'appelle donc, comme tu le disais, Enquête sur les créationnismes avec pour sous-titre Réseau, stratégie et objectifs politiques.
Mm-hmm. Mais pour revenir vraiment à l'origine du livre, qu'est-ce qui t'a interpellé sur le sujet du créationnisme? Qu'est-ce qui t'a pourquoi ce sujet t'a attiré?
Alors, oui. En fait, Quand j'ai fait ma thèse au Muséum national d'histoire naturelle, j'ai également, ben, je veux dire, j'ai participé à ce que j'appelle l'administration de la recherche, c'est-à-dire que j'ai été représentant au conseil scientifique de l'établissement en tant que représentant des jeunes chercheurs. J'étais actif au sein de l'école doctorale et également au sein de l'association des jeunes chercheurs du muséum. Et l'année, il y a une année où j'ai été président de cette association et je recevais des invitations pour des colloques et tout ça qui pouvaient être distribués aux membres de l'association que je présidais. Et je me souviens avoir reçu des invitations pour un colloque qui a été organisé à Paris, alors je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'était à l'UNESCO, et qui s'intitulait Science et Sens. Et quand j'ai reçu cette invitation, enfin, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière cet intitulé un peu étrange, Science et Sens, pourquoi associer ces deux mots? Et j'ai commencé donc à m'intéresser à. Je m'intéressais déjà, étant évolutionniste et travaillant sur l'évolution, je m'intéressais à ceux qui s'y opposaient. Mais là, j'ai été confronté donc à un colloque qui était organisé par une association sur laquelle on a largement enquêté depuis, qui s'appelle l'Université interdisciplinaire de Paris. Et ça a été un élément supplémentaire pour attirer mon attention sur ces questions-là. Donc j'avais ça en tête, parce que ça, c'était au début des années 2000. J'avais ce sujet-là en tête, j'avais essayé à différentes occasions, quand j'étais au muséum, une époque où j'étais dans un groupe d'échanges et de discussions autour d'articles scientifiques qui étaient assez intéressants, et j'avais proposé qu'on discute de ça, mais comme on n'était pas sur des publications, justement, dans les revues à comité de lecture et tout ça, ça n'avait pas fonctionné. Et quand, en 2005, j'ai rencontré Cyril, en l'occurrence, Cyril Baudouin, qui lui trouvait ça très intéressant, on a démarré le travail là-dessus. Mais alors pourquoi travailler sur un, pourquoi à ce moment-là le sujet était en train de remonter? C'est parce qu'on était au moment du procès de Dover de 2005, qui était lié au mouvement américain du dessin intelligent, Denzan Dijan, donc on reparlera certainement, qui était considéré comme étant le nouvel avatar du créationnisme outre-Atlantique. Et donc il y avait une médiatisation assez importante de cet événement. Il y avait et dans le même temps, au niveau de l'Europe, il y avait des prises de position de ministres de l'Éducation de certains États européens qui voulaient s'en prenaient directement à la théorie de l'évolution et voulaient limiter ou interdire son enseignement, soit voulaient engager des discussions pour l'enseignement du dessin intelligent parallèlement à la théorie de l'évolution. Donc il y avait ce contexte-là aussi quand on a commencé à en parler avec Cyril et commencé à travailler dessus de ce procès de Dover. Et il y avait des éléments de l'actualité politique française qui quand même faisaient écho à la question de l'intrusion des religions, on va dire, dans les affaires publiques. Et je pense à des choses comme la remise en cause de la laïcité au travers de certaines commissions, comme la commission Machelon, ou de prise de position de personnalités politiques. Il y avait aussi dans le même temps l'affaire des caricatures de Mahomet. Donc il y avait tout un environnement autour de ces questions-là. Enfin, plus largement, là, j'ai élargi là, la question de l'intrusion des religions dans les affaires publiques. Et comme c'est des choses qui nous intéressent par ailleurs en tant que citoyens, je veux dire, pour lequel ça nous a d'autant plus intéressé de travailler sur le sujet, parce qu'on s'est rapidement rendu compte que c'est un sujet justement qui était comment dire, un révélateur, ou du moins qui abordait un grand nombre de problématiques de société qui, en tant que citoyens, nous intéressaient et nous concernaient. Sais pas si
Oh oui, tout à fait, oui. Est-ce que tu veux commencer? Ici, c'est un balado un peu sur la zététique ou le mouvement sceptique contemporain, scepticisme scientifique. Est-ce que au niveau de la littérature que tu as lu, je suppose que tu as dû t'intéresser à tout ce qui se fait du côté anglo-saxon, un peu sur ce même sujet, Je pense particulièrement à Eugenie Scott, le NCSC, qui lutte contre le créationnisme. Enfin.
Oui, on a eu l'occasion de consulter ses sources dans au cours de cette enquête, enfin de cette enquête qui s'est prolongée tout au long de ces années. C'était par rapport à ta question.
Oui, non, c'était un peu pour voir un peu tes contacts avec les sceptiques américains et le travail qu'on font sur le sujet, quoi.
Alors, en
Ouais.
fait, alors tu parles de contact, donc c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on est, comme je parle, le livre s'intitule "Enquête sur le créationnisme", mais je dis bien on a fait une enquête, c'est-à-dire on a notre bagage scientifique, chacun de notre côté, sur lequel s'appuie le travail qu'on fait et la manière dont on effectue aussi ce travail, mais on a quand même notre approche, c'est une enquête de type journalistique. C'est d'ailleurs pour ça que ce soit pour le premier livre ou pour celui-ci, on avait cette volonté de proposer un ouvrage le plus accessible possible, c'est-à-dire et indépendamment en fait de connaissances scientifiques préalables. Donc dans le deuxième livre en particulier, justement, on donne des éléments de compréhension de la démarche scientifique, de ce qui la distingue des autres types de discours. Donc c'est des aspects normatif, mais pour mieux comprendre où se situe justement le problème de ces créationnismes, mais avec cette volonté d'avoir un livre accessible à toute personne qui s'intéresse à des questions de société, et en l'occurrence à celle-ci, indépendamment des connaissances scientifiques, et sachant que cette problématique qui peut paraître d'abord, on va y revenir, mais il y a un certain nombre d'idées reçues dessus, et d'idées reçues sur les créationnismes, comme le fait que c'est une problématique uniquement américaine qui concerne uniquement les églises protestantes évangéliques. C'est encore des choses qu'on peut lire régulièrement dans les médias. Et c'est aussi on a souhaité, alors c'est le résultat, la déconstruction des idées reçues, puisque bien entendu, comme toute enquête, on avait un certain nombre d'idées au départ, mais on n'est pas allé chercher uniquement ce qui allait qui allait confirmer les idées qu'on avait, mais on a vraiment enquêté pour essayer de savoir s'il y avait véritablement une problématique et dans quelle mesure on pouvait faire identifier l'émergence et le développement de mouvements créationnistes au-delà des États-Unis et en particulier en Europe et en France.
Oui, c'est un bon point à développer. Je pense, je crois que mes auditeurs savent qu'évidemment, il y a un peu, ils connaissent probablement pour la plupart la réponse à la question qui est oui, il y a du créationnisme en France, mais tu peux un peu développer justement voilà quoi, c'est préjugé. Donc on a l'idée, c'est seulement américain, mais bon, c'est pas vrai. Mais quel est le paysage un peu en France et du créationnisme aujourd'hui?
Alors, pour répondre à ta question, juste avant de parler vraiment de la France, donc comme je parlais des idées reçues qu'on déconstruit au travers de notre travail et dans cet ouvrage en particulier, il y a donc le fait que les créationnistes ne concernent pas que les églises protestantes évangéliques aux États-Unis, ça on l'a déjà dit. Il y a le fait que l'Europe, et on va y parler, et en particulier la France, ne sont pas à l'abri des créationnismes. Le fait que les créationnistes ne concernent pas, c'est pas une liste exhaustive que je donne, mais c'est quelques exemples, quoi, pour l'illustrer. Le fait que les créationnistes ne concernent pas uniquement la biologie, parce que c'est vrai que quand on pense créationnisme, on pense créationnisme, on pense évolutionnisme, et donc on pense uniquement théorie darwinienne de l'évolution. Or, il se trouve que la problématique des créationnismes concerne d'autres disciplines, et en particulier dans le domaine de la physique et astrophysique et cosmologie. C'est d'ailleurs une des choses qu'on développe dans le premier chapitre où on aborde, on parle des disciplines scientifiques qui sont touchées par cette problématique créationniste. Donc ça, c'est parmi les idées reçues. Et il y a également, j'ai envie d'en rajouter une parce qu'elle est assez intéressante et après elle s'appuie sur les travaux d'un sociologue des sciences qui s'appelle Dominique Guillot en particulier, qui a fait un travail très intéressant. C'est l'idée qui est très présente en France et dans les médias. Parallèlement au fait que ce serait un problème américain, c'est toujours facile de dire que c'est de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est l'idée que les Français sont majoritairement opposés au créationnisme et se revendiquent évolutionnistes, donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Sauf que le sociologue des sciences dont je parlais et qu'on a interviewé, parce que dans le livre, en fait, on s'appuie aussi sur un certain nombre de personnalités qu'on est allé interviewer. Donc, on a 12 personnalités scientifiques et une personnalité politique qui était le rapporteur d'un rapport du Conseil de l'Europe sur les dangers du créationnisme dans l'éducation que nous avons interrogé pour compléter, étayer, donner des éléments de compréhension sur un certain nombre de points qu'on développe dans le livre. Toujours est-il que, pour revenir sur dans Dominique Guillot qu'on a interrogé, donc lui a fait un travail et a montré que là où les gens en fait se revendiquent comme étant évolutionnistes et darwinistes très spontanément et largement en France, en fait, quand il a creusé pour essayer de savoir quelles étaient les idées qui étaient associées à cette étiquette, il s'est rendu compte qu'il y avait pour la très grande majorité des gens interrogés, et dont certains ayant fait des études scientifiques, etc., ayant même des formations scientifiques, des schèmes cognitifs, donc qui sont ceux qu'on retrouve à la base des doctrines créationnistes. Alors, pour la France elle-même, on a un certain nombre de structures. Alors, il y a des structures qui ont une visibilité, on va dire, relativement limitée. Elles n'en sont pas moins présentes et organisent des conférences, des débats, essaient d'intervenir, s'ils le peuvent, dans les médias. Et puis, ont pas mal d'activités au-delà de la France. C'est-à-dire qu'ils ont, ils réunissent en fait des membres et des personnes qui sont dans d'autres pays européens, également outre-Atlantique aux États-Unis. Et là, je pense entre autres au cercle d'études rétrospectives sur la science, le CEP, c'est le Centre d'études rétrospectives sur la science, le CEP, qui est dirigé par Dominique Tasso, qui est une personne qui est formation, il est polytechnicien. Et là, on est face à une structure qui défend un créationnisme scientifique type Terre jeune, donc c'est-à-dire l'idée selon laquelle les espèces et la Terre et toutes les espèces qu'elle porte ont été créées il y a 6000 ans telles qu'elles sont aujourd'hui, et donc qui rejettent totalement l'évolution. Alors, ils acceptent comme ils sont. Ils essaient quand même ils développent un discours qui se veut, selon eux, scientifique. Ils disent par exemple qu'ils acceptent l'idée de microévolution, c'est-à-dire l'idée qu'il peut y avoir des transformations à l'intérieur d'une espèce, mais par contre ils rejettent catégoriquement la macroévolution, une petite idée de transformation des espèces les unes dans les autres. Donc ça, ce sont alors là on est sur des structures qui sont de tendance catholique, proche de mouvances intégristes du type la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X. Et donc ils ont quand même des positions qui sont assez extrêmes et donc qui peuvent avoir d'autant plus de difficultés à diffuser dans un pays comme la France. Je pense qu'elles auraient plus d'audience, je veux dire, ils auraient certainement plus d'audience s'ils étaient aux États-Unis même. Et on n'a pas que les catholiques pour ce type de position anti-évolutionniste, on a également une association qui s'appelle l'association Au Commencement, qui est, elle, une association protestante évangélique et qui a quand même une particularité assez intéressante, c'est qu'elle a été créée et qu'elle est présidée par un chercheur en génétique animale, en génétique appliquée à la sélection animale, qui est directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche en Agronomie. Alors, il est en disponibilité de son établissement de recherche depuis 2009. Il travaille à l'heure actuelle pour un prestataire de l'INRA. On est dans le cas d'une personnalité scientifique, en l'occurrence un directeur de recherche, qui, reconnu pour ses travaux, de ce que on a pu en lire et en savoir dans son domaine de compétences, et qui, parallèlement, organiser des réunions publiques et tout ça pour dire que l'évolution, c'est un mensonge institutionnalisé, qu'il y a absolument que la Terre a été créée il y a 6000 ans, que les espèces ont été créées telles qu'elles sont aujourd'hui, etc., etc. Donc position qui est le créationniste le plus radical, celui que les gens souvent ont en tête et qui est loin d'être les créationnistes les plus problématiques à l'heure actuelle, mais ça fait partie des choses qu'on voit en France. Et après, je vais faire un saut assez important. J'ai déjà évoqué l'association en parlant du colloque Science et Sens organisé au début des années 2000. J'ai plus précisément la date en tête. Donc c'est l'université interdisciplinaire de Paris. Et là, dans le cas de cette association, on est face à une structure qui, sous prétexte de promouvoir le dialogue entre science et religion, eh bien, interprète certains résultats scientifiques pour légitimer une vision spiritualiste du monde. C'est une manière de résumer leur approche. Bon, c'est une association qui accepte l'évolution des espèces, donc on n'est vraiment pas du tout dans le même type d'approche que ce que les structures que j'ai citées auparavant. Mais c'est une association qui est fondamentalement anti-darwinienne et anti-matérialiste. Alors anti-matérialiste au sens, alors eux ils élargissent, enfin ils caricaturent un peu les choses parce que c'est plus facile comme ça pour rejeter. Quand je parle de matérialisme, c'est le matérialisme méthodologique, donc qui est l'un des piliers de la démarche scientifique moderne et qui consiste à mettre de côté, à rejeter toutes les entités non testables scientifiquement, donc en particulier les entités surnaturelle ou transcendante. Donc c'est une pour le coup cette association elle a beaucoup plus d'importance d'abord parce qu'elle s'appuie sur un certain nombre de scientifiques et si possible des scientifiques avec des étiquettes prestigieuses. Je pense à des prix Nobel qui sont les membres qu'ils essaient des personnes qu'ils essaient de récupérer et qui mettent en avant après dans les colloques qu'ils organisent. Ce qu'on trouve de commun au sein des scientifiques qui participent activement aux activités de l'association, et je veux dire activement dans le temps, parce que c'est une association qui a drainé énormément d'argent d'une importante fondation américaine qui s'appelle la Fondation Templeton, dont les auditeurs ont peut-être déjà entendu parler. Non, c'est la John Templeton Foundation. C'est une fondation qui œuvre pour le progrès de la religion et qui, pour ça, travaille en particulier en donnant des financements importants dans le domaine, dans le milieu de la recherche, que ce soit pour financer des colloques ou financer des programmes de recherche, avec des choses parfois qui ont parfois des programmes qui sont extrêmement sérieux au premier abord et qui a priori pose pas de problème. Et puis quand on commence à creuser un peu le fonctionnement de cette association, on commence à voir que il y a un certain nombre de choses qui sont mises en avant pour cacher tout ce qui finance par ailleurs. Voilà, bon, je ferme la parenthèse sur cette association, cette fondation pardon, pour y revenir. Pour l'université interdisciplinaire de Paris, ce qu'on constate avec les scientifiques qui participent activement, c'est qu'ils ont en commun de brouiller la frontière entre science et religion pour tenter de concilier leur foi personnelle avec la démarche scientifique. Et en fait, ils font la promotion d'une science spiritualisée en défendant des interprétations spiritualistes de résultats scientifiques. Et quand je dis ça, c'est pas seulement dans le domaine de l'évolution, ça rejoint ce que j'ai vu avant. Ils prétendent en fait que la science apporte la preuve apporte la preuve de l'existence d'une réalité à laquelle la science elle-même n'aura jamais accès. Bon, c'est ça, prétendre que la science apporte la preuve de l'existence d'une réalité à laquelle la science elle-même n'aura jamais accès. Et la force donc de cette structure, c'est d'avoir su drainer, participer à nombreux programmes financés par la Fondation Templeton. Et quand je dis des sommes d'argent importantes, c'est que dans les recherches qu'on a fait, on a réussi à avoir des chiffres pour les montants financiers qui ont été drainés par l'association entre 2000 et 2008. Entre 2000 et 2008, il y a 6,2 millions d'euros qui ont été utilisés par l'association provenant de la John Templeton Foundation. Alors c'est pas de l'argent donné directement, c'est au travers de programmes, par exemple le programme Science et Islam ou Science et orthodoxie, parce que c'est une association en plus qui est multiconfessionnelle. À sa tête, on a son fondateur et celui qui est l'actuel secrétaire général, c'est Jean Stone, qui est une personne qui met en avant ses multitudes de diplômes. Il est son activité principale, c'est dans le domaine du management, mais on retrouve d'autres personnalités qui ont une visibilité en termes de diffusion de la culture scientifique ou de vulgarisation scientifique. Et je pense à son président qui est l'astrophysicien Trix Xuan Tuan. Je pense que aussi que je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur un podcast avec d'autres personnes. Trix Xuan Tuan donc est un astrophysicien qui est américain, qui est à l'université de Virginie, mais qui par ailleurs est un francophile et qui écrit ses ouvrages de vulgarisation en français, qui sont par ailleurs traduits. Et son premier ouvrage qu'il a fait connaître, c'est La Mélodie secrète, qui est paru en 1986. Et il fait partie de ces physiciens qui, dans ses interventions, peuvent parler de ce que nous dit la physique moderne, et en particulier dans le domaine de l'astrophysique dans son cas, mais qui également ne cesse de mettre en avant le principe anthropique fort. C'est-à-dire cet argument, donc je vais pas revenir sur, c'est assez long d'expliquer l'historique, parce qu'au départ le principe anthropique a été développé par des physiciens dans le cadre de certaines réflexions par rapport à leur rapport à la réalité, aux composantes de l'univers. Bref, je passe les détails, mais cet argument du principe anthropique fort, donc est en fait une version déformée d'un principe qui au départ a été discuté scientifiquement, consiste à déclarer que les paramètres qui définissent l'univers, ou les paramètres qui sont qu'on connaît, qui permettent de caractériser l'univers dans lequel on vit. Alors, prenons un paramètre, par exemple la vitesse de la lumière, qui est fixe, 300 000 km par seconde, je donne pas les chiffres après la virgule, et ben que ces paramètres ont été ajustés en vue de l'émergence d'une vie intelligente. C'est cette question du fine-tuning, l'ajustement l'ajustement fin et précis des composantes de l'univers qui ne pourrait pas être le fruit du hasard. C'est ça l'idée du principe anthropique fort. C'est une idée qu'on retrouve chez un certain nombre de physiciens et entre autres Trix Xuan Tuan. Donc il y a derrière une fois qu'on a dit que les composants, une fois que on présente ça comme étant scientifique en disant voilà les composantes de l'univers sont tellement finement réglées que ça peut pas être le fruit du hasard, et donc il y a une entité supérieure et transcendante qui est à l'origine de ce réglage. Et voilà, on voit tout de suite le discours spiritualiste qui s'installe et la manière dont la science est utilisée pour justifier là une entité supérieure et transcendante qui est à l'origine du monde dans lequel on vit. Et ça, c'est, je fais juste une petite aparté parce qu'il y a des personnes, deux personnalités médiatiques, essentiellement médiatiques, mais qui peuvent se prévaloir aussi d'avoir chacun respectivement une thèse, qui sont très médiatiques, qui l'ont été pendant de nombreuses années, qu'on a un peu perdu de vue pendant quelques années, et depuis maintenant 4-5 ans, ils sont très très présents. C'est les frères Bogdanov. Et les frères Bogdanov, si on regarde les thèses qu'ils présentent dans les interviews qu'ils donnent ou dans les derniers livres qu'ils ont parus, c'est exactement ce principe anthropique fort qui est par ailleurs celui que présentent dans les médias de manière souvent plus subtile, mais néanmoins réelle, Trix Xuan Tuan.
Oui, enfin, pour ce problème de l'invocation du fine-tuning ou du principe anthropique fort, moi, quand on m'en parle, je dis toujours, mais ça reste quand même en fait un dieu des trous, quoi. C'est-à-dire que ultimement, c'est de nouveau invoqué. Oui, on ne sait pas pourquoi pourquoi l'univers a été est fine-tuned. Donc, comme on ne sait pas expliquer pourquoi il est comme ça, donc cela prouve l'existence de Dieu. Et ben oui, c'est typiquement un argument du dieu des trous, simplement appliqué à la cosmologie, quoi.
Oui, c'est ça. Alors ça c'est le côté de la physique, et c'est vrai que si on veut parler, alors c'est toujours pareil, hein. Quand là on parle de structure, je veux dire, on essaie justement d'être fin dans les analyses qu'on fait, tout en étant très clair. Mais je veux dire, on parle d'association. Donc une association, comme pour tous ceux qui ont fait de l'associatif le savent, une association, c'est riche de la diversité de ses membres. Donc à l'intérieur d'une association comme l'Université interdisciplinaire de Paris, on va trouver toujours ce que j'ai évoqué en termes de base commune, mais après on va avoir des positions qui sont plus ou moins tranchées. J'ai quelque chose en tête, c'est qu'on avait fait une interview d'un membre de l'association à l'époque du documentaire dont j'ai parlé au début, et qui est un académicien des sciences, astrophysicien de surcroît, qui, lui, est pour une synthèse entre science et religion. Donc, véritablement une synthèse, estimant que, de toute façon, si la science veut continuer à produire des résultats qui soient pertinents pour les sociétés, il faut à tout prix que cette synthèse se fasse entre la science et la religion, parce que la science a besoin de la religion pour pouvoir produire ses résultats. Mais ça, c'est une position parmi d'autres. Le point commun, c'est cette manière de vouloir de l'intérieur spiritualiser la science, et du moins instrumentaliser la science pour fonder une posture qu'on peut qualifier de théologique, ou promouvoir la religion en mettant en avant une prétendue complémentarité entre science et religion, une complémentarité entre domaines de compétences. Parce que quand j'ai parlé de dialogue tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais parce que je sais que parfois il y a des réactions quand on évoque cet aspect-là, en disant mais vous êtes contre le dialogue, c'est quoi cette position, vous êtes dogmatique. Non, on parle pas de dialogue entre personnes. Je veux dire, les dialogues entre personnes, il ne reviendrait absolument pas de le remettre en cause. On parle là de gens qui mettent en avant et qui prétendent qu'un dialogue entre domaines de compétences, domaines de compétences, c'est une manière de présenter les choses, c'est un peu difficile. On n'est pas sur le même registre, mais entre science et religion est nécessaire, et que c'est et en plus dans le même temps que ce sont certains résultats issus de la science, des résultats très récents, qui vont dans le sens de ce rapprochement entre la science et religion, et qui fondent la pertinence de ce rapprochement.
Oui, en fait, moi, je connais assez bien la Discovery Institute aux États-Unis, donc c'est vrai que j'ai lu certains de leurs ouvrages, et j'ai pendant tout un temps été abonné à leur podcast, donc ça, j'ai une idée assez précise de ce que raconte le Discovery Institute, donc le dessin, enfin l'organisation qui fait la promotion du dessin intelligent, j'ai ça pour les auditeurs, mais l'Université interdisciplinaire de Paris, je connais nettement moins. Mais pour ce que j'en ai vu ou lu ou entendu par-ci par-là, j'avais mon impression globale, c'était que finalement, on était vraiment très proche du Discovery Institute, du discours du Discovery Institute, et mon impression, c'était que finalement, l'idée, c'était juste d'avoir un Discovery Institute français, quoi, qui s'était un peu inspiré, ils essayaient de faire connaître les idées un peu du type Discovery Institute de par chez nous, mais ça c'est mon impression vraiment subjective. Comme je dis, je connais vraiment pas bien l'université interdisciplinaire, mais tu dirais quoi par rapport, tu verrais des grosses différences, ou tu vois des différences entre le discours du Discovery Institute et celui de l'université interdisciplinaire de Paris?
Alors, en fait, dans les deux cas, ce qui réunit l'association dont on parle, et d'autres structures que je pourrais évoquer après, et le Discovery Institute, donc, est donc l'organisation qui fait la promotion la plus intensive du mouvement du dessin intelligent, et qui a permis aussi sa montée en puissance au début des années 90, c'est que dans les deux cas, on est face à ce qu'on appelle un créationnisme évolutionniste ou un évolutionnisme théiste. On est clairement sur ce type d'approche. Après, nous, on a quand même distingué, ce qui est strictement dessin intelligent. Alors, dans le dessin intelligent, on trouve le Discovery Institute, puis après, il y a des structures qui sont plus ou moins liées au Discovery Institute, comme le Center for Science and Culture. Alors, celui-là, il est lié directement. Il y a l'Intelligent Design Network aussi. Il y a, de mémoire, une Common Descent, je crois, qui est aussi dans les structures américaines. Et puis, il y a aussi des structures au Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, il y a une forte problématique qui s'est développée depuis une quinzaine d'années. La situation à plein de niveaux est devenue assez comparable à celle des États-Unis, ce qui est en parallèlement à des réformes du système éducatif. Et au Royaume-Uni, on retrouve, le Center for Intelligent Design, qui est basé en Écosse, il me semble. Et on a aussi une organisation qui s'appelle Trust in Science. C'est la vérité dans la science, donc excusez-moi pour la prononciation, et qui est une structure qui distribue beaucoup de matériel pédagogique en direction des écoles au Royaume-Uni. Ils ont une grosse activité là-dessus, et pour le coup, c'est clairement du matériel qui provient du Discovery Institute qui diffuse, donc qui soit directement relié au Discovery Institute ou qui simplement est émergé parce que en s'appuyant sur ce que le Discovery Institute produit, on est sur le même groupement. Mais ensuite, on a distingué ce mouvement strictement du dessin intelligent de ce qu'on appelle, alors là, c'est pas une expression qu'est de nous, on l'a reprise de quelqu'un qui connaît bien la problématique du créationnisme et qui fait la préface de notre livre, enfin une préface un peu originale parce qu'on a une préface sous la forme d'une interview. On n'a pas laissé la liberté d'écrire ce qu'il voulait, on a préféré l'interroger. Donc c'est Guillaume Lecointre. Et Guillaume Lecointre qui a développé le terme de spiritualisme englobant. Dans le spiritualisme englobant, c'est là qu'on place l'Université interdisciplinaire de Paris. Et il y a des petites, j'ai envie de dire, par rapport au dessin intelligent, quand on analyse finement justement les doctrines qui sont portées et la manière dont ils agissent, on voit quand même des différences. Et pour le coup, le spiritualisme englobant, l'approche est encore plus sophistiquée que celle du dessin intelligent. Et dans le spiritualisme englobant, on met bien entendu la fondation Templeton que j'ai évoquée, donc cette importante fondation américaine, qui, d'autant plus importante que ce qui nous a surpris à un moment donné, c'est que à chaque fois qu'on se retrouvait face à une structure, ou alors un pays, une personnalité politique, une personnalité scientifique, mettant en avant une approche de type spiritualisme englobant que j'ai évoqué au travers de l'approche que j'ai évoquée au travers de l'Université interdisciplinaire de Paris, à chaque fois qu'on observait ça, on arrivait directement ou indirectement, systématiquement à remonter à la Fondation Templeton. Quand je dis indirectement, c'est parce que la Fondation Templeton, elle est capable de financer les années les plus fastes des programmes, des structures, des sites internet à hauteur de 50 millions d'euros. Donc c'est tout de même des sommes considérables. C'est une fondation qui distribue un prix qui s'appelle le prix Templeton, qui est un prix qui existe depuis la création, même depuis avant la création de la fondation, qui est un prix qui récompense une personne vivante qui a réalisé une contribution exceptionnelle confirmant la dimension spirituelle de la vie. Là, c'est une citation que j'avais sous les yeux. Donc, une personne vivante qui a réalisé une contribution exceptionnelle confirmant la dimension spirituelle de la vie. Et c'est un prix qui est volontairement supérieur au montant du prix Nobel. Parce que Templeton considérait que le prix Nobel, il n'y a pas de prix Nobel qui récompensait ce type, d'une personne ayant porté ce type d'idée. Et donc, il a créé ce prix volontairement pour compléter les prix Nobel. Et c'est pour ça qu'il a donné attribué un montant aussi important. Et je terminerai pour fermer cette parenthèse sur le prix Templeton et la Fondation Templeton, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est quand on observe, parce que la Fondation Templeton a changé de stratégie au fil des années, c'est-à-dire que il y a encore 10-15 ans, une quinzaine d'années, ils mettaient beaucoup plus en avant la religion, alors que désormais, il faut vraiment creuser pour voir les références à la religion. Maintenant, ils évitent tout le vocabulaire religieux, ils parlent des big questions, des grandes questions. Et là, on retrouve les idées de sens, de quête de sens, plein d'idées qui sont très en marge de ce que la démarche scientifique, de ce sur quoi la démarche scientifique peut travailler. Et au niveau du prix Templeton, on observe aussi ce changement parce que le prix Templeton a récompensé, je crois au tout début, il me semble qu'il y a eu dans les premières personnes qui ont été récompensées, c'était essentiellement des personnalités religieuses. Dans le lot, il y a dû y avoir Mère Teresa, par exemple, et d'autres. Et au cours des, depuis 2000, si on regarde ceux qui ont reçu le prix Templeton, donc les lauréats du prix Templeton, on constate qu'il y a 10 scientifiques qui ont été récompensés, majoritairement des physiciens et 2 philosophes des sciences. Et ça, c'est vraiment un changement important qui s'est opéré dans stratégie. Et c'est en lien, c'est ce qu'on a essayé d'analyser dans une partie, justement, on parle plus en détail de cette fondation, on a essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière et on peut voir que c'est lié en fait à des changements qui sont faits au niveau de la direction et de personnes qui ont décidé d'avoir un discours encore plus sophistiqué. Pourquoi ? Parce que, et là c'est pour ça a fait le lien avec la question initiale, parce que le mouvement du dessin intelligent a commencé à... La croisade du dessin intelligent a démarré au début des années 2000. Elle avait la mouvance du dessin intelligent et Discovery Institute, ils ont commencé à la structurer dès la fin des années 80, en fait après la décision de la Cour suprême des États-Unis qui avait définitivement mis un terme à la croisade du créationnisme scientifique qui a eu lieu pendant les années 80. Et dans le prolongement, il y a le dessin intelligent qui commence à s'organiser. Alors, s'organiser, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui commencent à être publiés pour un public très large, parce qu'il faut toujours viser le plus largement possible. Et puis, comme ils peuvent pas publier leurs résultats dans des revues à référer, ils créent leurs propres revues, etc. Ils structurent des fondations, des associations. Et c'est seulement dans les années 2000 que la croisade a démarré, comme elle avait démarré pour le créationnisme scientifique dans les années 80. Au début des années 80, en lien avec un événement politique important, qui est l'élection de George W. Bush, parce que George W. Bush, comme Ronald Reagan en son temps, au début des années 80, ces deux chefs de l'État vont apporter un soutien officiel, pour Ronald Reagan, un soutien officiel à l'enseignement du créationnisme scientifique, ou science de la création, et pour George W. Bush, un soutien officiel à l'enseignement du dessin intelligent, parallèlement à la théorie darwinienne de l'évolution. Et comme il y a le procès de Dover dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un des éléments qui a contribué à lancer notre travail, ce procès de Dover en 2005, il est perdu par les partisans du dessin intelligent. Alors, on n'est pas revenu sur l'histoire américaine. Aux États-Unis, les procès se font état par état parce que ça vient du système décentralisé au niveau éducatif, qui fait que les procès se déroulent en lien avec des établissements dans chaque État. Donc la croisade du dessin intelligent, elle n'est pas terminée, elle a d'ailleurs évolué depuis 2005, puisqu'ils ont encore sophistiqué encore plus leur approche autour des années 2008-2009, et désormais ils sont dans une approche qui englobe thématiques qui sont liées à la science, de façon à noyer encore plus le poisson, on va le faire simple. Et ce qui s'est passé avec cette défaite au procès de Dover, c'est que là où on peut constater dans cette année-là, on peut faire des liens entre la Fondation Templeton et le Discovery Institute au travers de certains d'aides qui ont été données indirectement pour financer des ouvrages ou des travaux de recherche ou des ouvrages de personnes qui étaient liées à l'Institut pour la Découverte, donc au Discovery Institute, eh bien, ils vont totalement modifier leur situation puisque comme les partisans du dessin intelligent ont perdu un procès, il s'agit de plus être lié directement à eux et surtout de se présenter, parce que c'est bien la particularité aussi bien de l'Université interdisciplinaire de Paris que de la Fondation Templeton, c'est qu'ils se présentent comme étant les mieux à même de s'opposer aux formes de créationnisme qu'ils limitent au créationnisme anti-évolutionniste dont on a un petit peu parlé et au dessin intelligent. Donc, bien entendu, quand nous qui avons tenté de caractériser les créationnismes, et on peut éventuellement revenir sur la caractérisation qu'on a fait, pour nous, l'Université interdisciplinaire de Paris et la Fondation Templeton relèvent bel et bien d'un créationnisme extrêmement sophistiqué qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, et on est d'accord, a des parentés et des liens en particulier en termes de développement et d'idées, avec ce qui relève du dessin intelligent, de la mouvance du dessin intelligent outre-Atlantique.
Oui, ce qui est amusant, c'est que du côté des sceptiques américains, comme il y en a un certain nombre qui travaillent sur les questions évidemment de religion, d'un point de vue athée ou d'humanisme séculier, ils pourraient recevoir des bourses de la Fondation Templeton, et c'est toujours un des gros débats, est-ce qu'il faut accepter l'argent ou pas de la Fondation Templeton. Enfin, Massimo Pigliucci, un biologiste et philosophe dont je suis assez fan, évidemment, il dit toujours non, je refuse par principe. Voilà, par exemple, il pourrait financer des bouquins ou des ouvrages collectifs avec l'argent de la Fondation Templeton, mais il y a eu quand même Chris Mooney, qui est un sceptique américain, ça avait créé à l'époque une zone de conflit, mais il avait accepté de l'argent de la Fondation Templeton. Alors évidemment, il avait défendu sa position en disant voilà, bon, j'ai reçu de l'argent, c'était pour faire un certain nombre de choses, il a pu les faire. Mais bon, évidemment, c'est toujours est-ce qu'on rejette par principe l'argent qu'elle donne cette fondation ou pas, quoi.
Ouais. T'as raison de dire ça, parce qu'il y a en effet des personnes, et il y a même, je crois qu'il y a quelqu'un dernièrement qui pendant longtemps a dénoncé tous ceux qui acceptaient des financements de Templeton et qui a finalement changé de position en disant que dans le contexte actuellement de financement de la recherche, avec des financements publics qui ne cessent de diminuer, et c'est pareil c'est pas, ça ne ça concerne pas que la France et l'Europe, eh bien, lui, ce qui importait, c'est qu'il puisse continuer ses travaux, et donc, désormais, il accepterait l'argent de la Fondation Templeton s'il pouvait y en avoir. Donc, il y a un problème, il y a, en effet, cette fondation a su, enfin, s'est bien implantée dans le panneau, dans la situation actuelle qui est celui des recherches publiques dans de nombreux pays, avec les baisses de financement et avec le fait qu'il y a besoin de trouver de l'argent ailleurs. Dans la partie qu'on consacre à cette organisation, on a justement voulu creuser, parce que je disais tout à l'heure, la Fondation Templeton, elle met en avant, quand pour se défendre par exemple d'avoir des liens avec les partisans du dessin intelligent, ou d'avoir eu des liens avec ces partisans-là, parce que c'est pas forcément des liens ces dernières années, mais c'était, comme je disais, juste avant le procès de Dover et avant qu'ils changent encore, qu'ils rendent leur approche, j'ai envie de dire encore plus, leur stratégie encore plus sophistiquée. Ils mettent en avant, ce que je voulais dire, c'est qu'ils mettent en avant des programmes de recherche qui sont extrêmement sérieux. Et j'ai une chose en tête, c'est que donc ils mettent en avant des choses qui sont présentées comme étant une caution anticréationniste. Et il y a un des arguments qui revient et qu'on peut trouver d'ailleurs sur leur site assez facilement si on tape créationnisme Templeton Foundation. Je crois qu'on tombe assez rapidement sur une page où ils ont mis leurs arguments qui sont censés démontrer de manière irréfutable que si c'est bien une organisation qui lutte contre le créationnisme et qu'ils ont strictement rien à voir avec du créationnisme, c'est qu'ils mettent en avant le fait qu'ils financent à hauteur de plusieurs millions d'euros un programme qui est piloté par l'American Association for the Advancement of Science, donc l'AAS, qui est l'éditrice de la revue Science. Et ce programme s'appelle Dozer. C'est un programme qui... alors Dozer, ça veut dire, je traduis en français, c'est Dialogue sur la science, l'éthique et la religion. Et c'est présenté, et donc c'est en mettant en avant le fait qu'ils participent, enfin qu'ils sont partie prenante dans un programme qui implique l'AAS, qui par ailleurs a largement écrit et dénoncé la problématique, les problématiques créationnistes aux États-Unis et ailleurs. Et ben ils s'en servent comme caution anticréationniste. Voilà, ils s'appuient essentiellement là-dessus pour le dire. Sauf que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La Fondation Templeton, quand on regarde véritablement et qu'on creuse pour essayer de voir comment est-ce qu'il fonctionne, ils ont bel et bien soutenu des travaux réalisés par des partisans du dessin intelligent. Je sais pas si j'ai un exemple. Bon, en 99, oui, j'ai une chose. Ils ont, il y a un des leaders du mouvement qui est William Dembski, qui reçoit une bourse de 75 000 euros pour la rédaction d'un livre qui s'appelle Being as Communion, The Metaphysics of Information. C'est un ouvrage dans lequel il propose une réflexion scientifique et théologique sur la théorie de l'information et sur le fait qu'un dessin serait sous-jacent au monde naturel. Bon, c'est là-dessus que, bien entendu, se croisent des organisations comme la Fondation Templeton et le Discovery Institute, même si le Discovery Institute reste un think tank, un groupe de réflexion conservateur qui est structuré d'une manière particulière avec des objectifs politiques qui sont certainement beaucoup plus clairement affichés que dans le cas de la Fondation Templeton, qui met en avant souvent des éléments de des objectifs de connaissance et de réflexion autour de ce qu'ils appellent les big questions, qui sont en fait qui est un terme qui paraît pas du tout problématique, sauf qu'auparavant ils parlaient de réalité spirituelle, ils parlaient d'information spirituelle à travers la science, ils parlaient de science et religion, et c'est devenu désormais la science et les grandes questions. Donc on est vraiment dans cette idée de masquer au maximum tout ce qui est le vocabulaire religieux, mais les objectifs sont toujours les mêmes. Et quand on creuse sur leur site, on voit qu'ils mettent toujours en avant les objectifs qui étaient ceux de Sir John Templeton, qui est décédé il y a quelques années.
Oui, et puis bon, peut-être que les auditeurs ne le connaissent pas, mais je veux dire, Dembski, c'est une des stars du... Enfin, si, c'est pas la grande star du Discovery Institute, je veux dire, on peut difficilement donner une bourse à Dembski sans savoir qui est Dembski et qu'il est la tête de... Enfin, un des auteurs les plus importants du Discovery Institute, donc du dessin intelligent, quoi. Mais le temps passe, évidemment. Oui. Je voulais quand même te poser une question un peu plus de fond, parce que qui m'intéresse, juste pour voir comment tu répondras à cette question, en fait. C'est à propos du naturalisme méthodologique, hein. Voilà, parce que on dit bon, le naturalisme méthodologique, c'est un des aspects au fondement de la science. Mais pourquoi est-ce que c'est un des aspects au fondement de la science? Pourquoi est-ce que, je veux dire, d'un point de vue épistémologique ou méthodologique, on doit absolument distinguer, séparer la spirituelle, le spirituel ou le Dieu, les questions de théologie, de la science. Moi, je connais évidemment des réponses, mais je serais curieux de savoir comment toi tu justifies un peu le naturalisme méthodologique, quoi.
C'est pas facile la question parce que tu demandes pourquoi parce que c'est pas juste un dire pour répondre à cette question on peut pas juste présenter un point de vue aujourd'hui, c'est-à-dire que ça se le constat qui est fait il est dans le cadre de l'histoire des sciences et il y a eu un moment où il y a eu une séparation du discours scientifique par rapport au discours religieux. Ce qui ne veut pas dire que les scientifiques qui faisaient la distinction entre les deux n'étaient pas eux-mêmes croyants, parce que c'est souvent une chose qui est mise en avant en disant Newton, par exemple, était croyant, machin, et en faisant comme si c'était parce qu'il était croyant qu'il a réussi à proposer les résultats qui sont aujourd'hui encore ceux dont on peut discuter. Voilà. Donc il y a tout un contexte historique. Nous, la manière dont on présente les choses, c'est-à-dire que on est bien d'accord que l'épistémologie. D'abord, on n'est pas épistémologue. Hein, on le dit au début de l'ouvrage. On n'a pas la prétention de tout savoir. C'est aussi pour ça que dans la première partie de notre ouvrage, qui consiste donc à présenter, à expliquer comment fonctionne la science. Enfin, déjà ce qu'on entend par le mot science, parce que là, je parle. Donc, on va parler maintenant de la démarche scientifique, parce que on parle pas de la science au sens de par exemple de la technoscience et de ce que la science peut nous produire. Donc on évoque dans cette première partie la démarche scientifique, ce qui distingue cette démarche des autres types de discours. En épistémologie, on est bien d'accord qu'il y a un grand nombre d'écoles de pensée, et il y a encore un grand nombre d'épistémologues qui s'écharpent sur savoir comment est-ce qu'on peut décider si telle ou telle discipline ou tel type de travaux relève réellement de la démarche scientifique. Donc on va pas rentrer dedans, mais les débats n'ont pas cessé depuis déjà longtemps et ne sont pas prêts de cesser. Cela dit, il nous semble, et c'est vrai que pour ça, on s'appuie aussi sur l'interview en préface qu'on a fait de Guillaume Lecointre, sur le fait qu'on peut définir, on va dire, Guillaume le présente comme ça, il parle d'un Guillaume Lecointre le présente comme ça, il parle d'un contrat des scientifiques et il parle des piliers de la démarche scientifique, c'est-à-dire un socle commun qu'on peut constater d'un point de vue de l'histoire, du point de vue de l'histoire des sciences, qui repose sur un certain nombre de notions, dont l'une de ces notions est celle dont on parle ici, qui est donc cette question du matérialisme méthodologique. Et après, j'ai presque envie de dire parce que je sens que je vais partir dans des grandes explications et que ça va être trop long. J'ai envie de dire que c'est la justification, elle est quelque part empirique. C'est-à-dire que je ne dis pas, je ne préjuge pas de ce qu'il y aura, de la manière dont la démarche scientifique et dont la science fonctionnera dans quelques décennies ou plutôt quelques siècles ou quelques millénaires, si on est encore là, si l'homme est encore là pour pouvoir en parler. Et le développer, mais ce qui est certain, c'est que ce matérialisme méthodologique ou ce naturalisme méthodologique qui est au cœur de la science moderne depuis le 19e siècle, eh bien, a donné des résultats très probants de par la connaissance qu'on a du monde naturel et de par les résultats qu'on partage de manière, qui sont partagés de manière universelle au travers de cette, enfin, dans la manière dont la démarche scientifique fonctionne. Donc, c'est quand même un constat quelque part empirique. Et ce qui est certain aussi, c'est que le fait ce qui est certain, de conserver de défendre ou de mettre en avant, de bien expliquer en quoi consiste ce matérialisme méthodologique, c'est important parce que cela permet de conserver l'autonomie de la science vis-à-vis d'autres types de discours, et en particulier des discours religieux, qui ne peuvent pas permettre de produire des résultats dans le cadre de la démarche scientifique. Je ne sais pas si c'est clair ce
Oui,
que
bien
je veux
sûr,
dire.
non, très clair. Très bien. Bah, écoute,
Voilà.
je pense que c'est un bon mot de la fin, en fait. Donc, merci encore d'être venu présenter ton livre. Je voulais quand même te demander, au niveau du futur, donc ce livre, maintenant, ça fait 1 an qu'il est sorti. Est-ce que tu comptes continuer à travailler sur le sujet du créationnisme, ou bien tu as
Alors en
d'autres
fait,
projets en route?
je continue à faire de la veille et à suivre ce sujet-là. On continue la promotion du livre parce que son contenu est totalement d'actualité. Là, on a évoqué un certain nombre de points. Je me permets d'inviter les auditeurs à aller, par exemple, sur. On a un site. L'adresse est un peu casse-pied à dire, mais si on tape enquête sur les créationnistes, on tombe assez vite. C'est un site, le nom de domaine, c'est Tazius, Tazius. Et sur ce site, on a un certain nombre de recensions dont le livre a fait l'objet pour avoir revoir un peu ce que les gens en ont dit et les avis extérieurs. On a de bons retours. Et la problématique, on n'a pas évoqué longuement les objectifs politiques et les aspects sociétés qui sont et ce qui est lié à l'actualité aussi, même en France. Mais c'est des choses qu'on développe parce qu'on a une cinquième partie dans cet ouvrage parce qu'on analyse les stratégies, comme j'ai dit, les réseaux dans de nombreux pays. Et dans la cinquième partie, on a une ouverture sur les terreaux sur lesquels sont susceptibles de développer les mouvements créationnistes. J'ai évoqué l'un des terreaux qui est le fait que les gens qui se revendiquent évolutionnistes ou darwinistes, en fait, ont exactement les mêmes, sont, ne sont, ne, 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 n'ont pas du tout des positions qui sont celles de la science moderne et même qui sont celles de ce que Darwin avait développé en son temps, mais qui sont les schémas cognitifs qu'on retrouve au sein des mouvements créationnistes. Donc là, c'est un des terreaux sur lesquels peuvent s'appuyer donc ces problèmes cognitifs sur lesquels peuvent s'appuyer les mouvements créationnistes pour se développer. Donc moi, je continue à travailler sur le sujet sans avoir un projet à court terme. Nous, on a un projet d'article avec Cyril qui serait plus sur ce qui concerne justement la question du principe anthropique fort. Donc il faut qu'on avance encore dessus, mais ça, c'est en projet. Je travaille également à un ouvrage, alors pour le coup, avec le co-auteur de... Enfin, non, le préfacier de notre livre, donc Guillaume Lecointre, un ouvrage collectif sur le thème des intrusions spiritualistes et impostures intellectuelles en science. Donc là, on n'est plus uniquement sur des problématiques du type créationnisme, ce sera plus large que ça. C'est un livre qu'on prépare aux éditions Matériologiques. Alors les éditions Matériologiques, c'est une maison d'édition en sciences, histoire et philosophie des sciences. J'en parle d'autant plus que je la connais parce que c'est une maison d'édition qui a émergé, qui a vu le jour il y a à peu près 4 ans. Je fais partie des membres fondateurs. On est donc un certain nombre de personnes à s'être réunies avec l'idée de pouvoir publier des livres sur ces thématiques. Donc j'invite les auditeurs à aller faire un tour sur le site. S'ils tapent matériologique sur Internet, ils vont vite tomber sur le site Internet. Et on propose des livres au format électronique et également en impression à la demande au format papier. Donc sur des sujets divers, il y a des sujets qui voilà, il y a des livres. Un des derniers livres parus, c'est un livre sur la cosmologie qui a été dirigé par Svirne d'Espagna. D'Espagna, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu. Mais et puis un ouvrage sur la biodiversité qui vient de paraître, la biodiversité en question, avec un ouvrage collectif également avec un certain nombre de scientifiques, d'écologues, de biologistes et de philosophes qui discutent de la notion de biodiversité. Donc ça répond en partie à la question, c'est-à-dire que j'ai aussi, c'est une activité bénévole, comme l'est le travail qu'on fait sur les créationnistes, parce qu'avec Cyril, on a tous les deux une activité professionnelle par ailleurs qui nous occupe, et donc on fait ça sur notre temps libre depuis toutes ces années, et on voilà, sur notre temps libre, et je participe donc activement aux activités, autant que je puisse le faire, aux activités des éditions matériologiques. Et à l'intérieur de ces projets, il y a ce projet d'ouvrage collectif qui verra certainement le jour, si c'est pas à la fin de l'année ou tout début de l'année 2015. Et donc ce sera l'occasion peut-être de discuter de certaines choses. En tout cas, voilà, il y a toujours des choses en lien avec le sujet pour répondre à la question. Et je ne cesse pas de faire de la veille et surtout de promouvoir le livre. Donc s'il y a des gens qui veulent aussi éventuellement organiser des conférences, des interventions, c'est quelque chose que je fais régulièrement. J'ai encore fait hier après-midi à Paris, en ce jour de la fête de la musique, et donc je peux me rendre disponible pour pour faire des interventions sur le sujet et l'expliquer, parce que l'objectif de notre PIP, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, de pouvoir susciter le débat et surtout déconstruire un certain nombre d'idées reçues, celles que j'ai évoquées au début, un certain nombre d'idées reçues sur cette problématique du créationnisme, qui est bel et bien une problématique de société qui touche à de nombreuses choses qui nous concernent tous directement, que ce soit l'enseignement, la question de la laïcité dans nos démocraties, etc., etc. Voilà. Je suis bavard.
Non, c'est pas grave. En tout cas, on voit que tu es bien occupé. Et c'est vrai que pendant que tu en parlais, je suis allé voir sur le site de cette maison d'édition. C'est vrai que ça a l'air super sympa. En tout cas, ça m'a donné envie de lire le bouquin qui est en préparation. Là, c'est vrai que comme je m'intéresse pas mal à la parapsychologie et que souvent en parapsychologie, il y a pas mal de mouvements antimatérialistes, etc. Ça me parle beaucoup. Mais effectivement, on est vraiment out of time. Un grand merci. On reste en contact. Hein, et puis voilà, s'il y a des choses dont tu veux, par exemple pour le prochain livre quand il sort, là, enfin cet ouvrage collectif, il faut revenir sur le balado et on en discutera, quoi.
Je suis informé.
Encore un grand merci. Hein. Ciao.
À bientôt. Au revoir.